Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est dirigée ce soir par Charles de Meyer et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir en première partie de cette émission Guillaume Bernard. Guillaume, bonsoir.
Bonsoir Charles et bonsoir à tous les auditeurs.
Nous aurons en deuxième partie le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Tugduel Denis, que tu connais bien Guillaume, puisque tu chroniques régulièrement dans Valeurs Actuelles. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus ?
Eh bien oui, j'ai la chance et le grand plaisir de sortir toutes les semaines une chronique pour Valeurs, alors qui est en règle générale sur le site internet de Valeurs Actuelles et de temps en temps, eh bien mon papier, lorsqu'il n'est pas trop long, eh bien passe dans le print. Mais oui, j'ai le grand plaisir de faire cela et c'est vrai que ça oblige à aiguiser son esprit, essayer de trouver dans l'actualité ce qui permet, je dirais, de faire une analyse qui relève de mes spécialités, c'est-à-dire l'histoire du droit, l'histoire des institutions, l'histoire des idées politiques. C'est un exercice à la fois contraignant et très salvateur pour l'esprit.
Guillaume, tu as une autre spécialité, une spécialité qui va croissante, c'est celle de dramaturge. Tu nous reviens avec une nouvelle pièce de théâtre, Vous n'aurez pas la pucelle d'Orléans aux superbes éditions de L'Homme Nouveau. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un petit peu de ton rapport au texte théâtral ? On en avait déjà posé la question sur ton dialogue au sujet de l'avortement, et là tu nous reviens avec, le sujet de Jeanne d'Arc. Tu t'épanouis dans cette écriture théâtrale ?
Oui, c'est vrai que j'avais des ambitions littéraires lorsque j'étais beaucoup plus jeune, donc il y a déjà pas mal de temps. Je ne suis pas né sous René Coty, il ne faut pas exagérer, mais enfin, c'est vrai que c'était il y a déjà quelques années. J'ai toujours aimé le théâtre, à la fois assister à des représentations et puis même lire du théâtre. J'ai été nourri aussi bien par les classiques, hein, que ce soit Racine ou par des contemporains. Je pense en particulier au cycle du théâtre catholique de Monterland, même si par ailleurs le reste de l'œuvre de Monterland n'est pas très catholique. Mais enfin, ces quatre grandes pièces catholiques sont, à mon sens, de véritables chefs-d'œuvre. Donc j'ai toujours aimé cela. Et puis il s'est avéré que j'ai croisé un étudiant qui s'appelle Corentin Stemmler, qui avait l'ambition, et lui, il a véritablement réalisé professionnellement cette vocation de monter des spectacles. Et c'est grâce à lui que finalement j'ai renoué avec ce goût de l'écriture, puisqu'on a écrit ensemble une pièce de théâtre qui s'appelait L'Empereur et les Brigands, qui est sortie aux Nouvelles Éditions Latines en 2021, c'est-à-dire une approche des guerres de Vendée à partir du personnage de Napoléon Bonaparte. Et puis j'ai donc continué à moi-même écrire des textes de manière personnelle, de manière autonome. Ça a été, tu l'as dit, De colère fracassée dans l'ignorance que j'ai sorti aux éditions de L'Homme Nouveau en 2023. Et puis, donc, le dernier né, ça n'est pas le dernier enfant conçu, parce que je ne cacherai pas aux auditeurs que nous avons dans la musette, si vous me permettez l'expression un peu familière, avec Corentin, une autre pièce de théâtre. Qui est prête et qui devrait être montée dans les mois qui viennent. Mais le dernier enfant né, eh bien, c'est Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine. C'est à l'occasion d'une nuit de l'histoire, c'est-à-dire en fait, à l'ICES, nous organisons, est organisé, c'est pas moi qui l'organise, toute une nuit au cours de laquelle il y a des conférences, des chants, des lectures à propos d'un thème. Et il y a 2 ans, nous avions fait Jeanne d'Arc. Et j'avais proposé à l'organisateur de faire un petit dialogue présentant le personnage de Jeanne d'Arc au cours de l'année 1920. Et c'est ce petit dialogue qui durait une quarantaine de minutes que j'ai développé, qui est devenu cette pièce de théâtre. C'est donc à la fois, effectivement, une œuvre qui est susceptible d'être montée, hein, d'être montée comme spectacle, comme pièce de théâtre, et en même temps un dialogue. au sens socratique du terme, c'est-à-dire comment des personnages qui ont des opinions politiques très disparates, eh bien, s'affrontent et comment petit à petit, eh bien, par la discussion, par la dialectique, eh bien, on arrive à préciser un sujet et à dégager au fur et à mesure de la discussion un certain nombre d'éléments de vérité. Voilà comment ce texte est né et dans quel contexte, effectivement, j'essaye d'avoir une petite œuvre littéraire depuis quelques années et j'espère pouvoir le continuer par d'autres publications dans les années qui viennent.
On ne peut que t'y encourager, cher Guillaume. Pourquoi ce choix de Jeanne d'Arc? Alors, on l'a compris, il y avait une soirée spéciale à l'ICES, mais il y a évidemment un travail préparatoire. J'imagine que tu ne l'as pas écrite et étudiée simplement au moment de la publication, enfin, de l'annonce de cette soirée spéciale. Est-ce que c'est une figure qui t'habite? Est-ce que c'est une figure sur laquelle tu travailles régulièrement? Et qu'est-ce qui t'intéresse chez elle plus particulièrement?
Bon, il est évident que Jeanne d'Arc est un des personnages les plus importants de l'histoire de France, à bien d'un titre, c'est-à-dire que c'est une femme issue du peuple, c'est une catholique, c'est une femme qui intervient pour défendre le pouvoir légitime, celui de Charles VII en l'occurrence, et puis c'est une femme qui, eh bien, est une héroïne de l'indépendance nationale face à l'occupation britannique. Et donc, évidemment, c'est un personnage essentiel puisque c'est au XVe siècle, dans ce début du XVe siècle, quelqu'un qui va permettre de révéler plus clairement encore que ça n'était le cas auparavant les règles de dévolution du trône, ce qu'est la légitimité du pouvoir. C'est un personnage qui permet de comprendre qu'il existe une identité nationale, même si par ailleurs les provinces de France ont des spécificités culturelles, sociales, juridiques. Il n'empêche qu'il y a comment dire, un droit commun, qu'il y a une identité commune. Et donc, pour ces différents aspects, il est clair que historiquement parlant, au XVe siècle, elle joue un grand rôle. Mais je crois que, au-delà même de son rôle au XVe siècle, Jeanne d'Arc a été et quelqu'un qui a révélé à la France, d'une certaine manière, ce qu'elle était. Et donc, le sous-titre de ce dialogue, c'est Le Testament posthume de Jeanne d'Arc. C'est comment, effectivement, l'œuvre de Jeanne d'Arc, les prises de position qu'elle a eu aussi bien au combat que lors, je dirais, du procès qui lui a été fait, on le sait bien, par l'Inquisition, mais évidemment à la demande des Anglais, par ses prises de position, elle nous a légué un enseignement. Et c'est cela que j'ai essayé de mettre en exergue, c'est-à-dire à travers l'évocation des principales phases de sa vie, hein, de sa vie publique, comment est-ce que Jeanne d'Arc nous lègue un enseignement qui est encore utile aujourd'hui? J'aurais envie de dire, ce dialogue, c'est qu'est-ce que c'est que le patriotisme et c'est qu'est-ce que c'est que l'identité de la France? Voilà à quoi, dans le fond, les personnages de ce dialogue tente de répondre en s'affrontant, puisqu'il y a différentes sensibilités politiques. Alors pourquoi, à l'époque contemporaine, ce dialogue est-il situé? Eh bien parce que en 1920, et ce sont les circonstances mêmes de la pièce, en 1920, eh bien il s'est passé deux événements importants, à la fois pour Jeanne d'Arc et pour la France. D'une part, eh bien on le sait, Jeanne d'Arc a été canonisée, hein, par le pape, c'est-à-dire que le long processus qui avait été engagé par Monseigneur Dupanloup, l'évêque d'Orléans, à partir donc de la deuxième moitié du XIXe siècle, a finalement abouti à ce que Jeanne d'Arc, qui avait été condamnée quand même pour hérésie par l'Inquisition, eh bien soit finalement mise sur les autels. C'est quand même un événement relativement important et ça légitime évidemment son action au service de l'indépendance nationale française. Et puis, en même temps, quelques semaines après, est votée au bout d'un très très long processus parlementaire, eh bien, est votée en 1920 une fête en l'honneur de Jeanne d'Arc, une fête du patriotisme qui est donc située, on le sait bien, elle existe toujours, hein, elle est toujours d'actualité cette loi, elle situe donc eh bien, cette fête du patriotisme le dimanche du mois de mai qui est le plus proche de la date du 8 mai. Alors ça n'est pas le 8 mai 45 auquel il est fait allusion là, c'est le 8 mai. date de la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. On sait que Orléans était assiégé par les Anglais. Jeanne réussit à rentrer dans la ville et elle réussit à libérer la ville, à faire lever le siège. Et donc, cette fête du patriotisme, elle est votée à l'unanimité par la Chambre des députés. Celui qui est à l'origine de ce vote en 1920, c'est Maurice Barrès, hein, le chantre du nationalisme. Mais il faut quand même savoir, et ça fait évidemment l'objet d'une discussion dans le dialogue, d'un affrontement dans le dialogue, cette loi, au départ, elle a été voulue par un certain Robert Fabre, qui, lui, était un parlementaire radical socialiste, et donc dans les années 1890, à une époque où, on le voit, la République radical cherche à essayer d'extirper Jeanne de l'Église, puisque le processus de canonisation ayant été lancé, eh bien, il y a eu tout un processus politique et historiographique pour essayer de faire échapper Jeanne à l'emprise de l'Église et pour essayer de la capter au profit de la République, naissante. Donc voilà, comment dire, l'objet, hein, du dialogue et les circonstances de ce dialogue. Oui, je pense que tu l'as compris, je pense que les auditeurs l'ont tous compris. Ma spécialité, c'est l'histoire du droit, l'histoire des institutions, l'histoire des idées politiques, et par conséquent, évidemment, pour enseigner ces matières-là, un personnage comme Jeanne d'Arc, ça n'est pas le seul, hein. Il y a aussi Charlemagne, bien sûr, par exemple, mais un personnage comme Jeanne d'Arc est incontournable. C'est donc quelqu'un que je fréquentais régulièrement et il m'a semblé que c'était un très bon sujet pour discuter aujourd'hui de ce qu'est le patriotisme et de ce qu'est l'identité nationale.
Un sujet de mémoire, tu l'as évoqué, hein, dans « Vous n'aurez pas la pucelle » de Lorraine aux éditions de L'Homme Nouveau. Car cette mémoire est un lieu de combat, tu l'as précisé, combat entre les blancs et les bleus, si on veut aller rapidement, syncrétisme barrésien dans l'esprit des grandes familles spirituelles de la France et de cette évolution de Barrès post-premier conflit mondial. Attitude romaine, puisqu'il ne faut pas oublier aussi que c'est une volonté romaine de donner un signal à la France à ce moment-là, après des années très difficiles au début du XXe siècle. Tu ne fais pas une présentation caricaturale de la chose, tu essayes aussi de présenter l'articulation républicaine. Bon, ceux qui te connaissent savent que tu n'es que modérément républicain. Je ne crois pas que ce soit te faire insulte.
Non, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop qui est donné ce soir par Charles de Meyer. Non, non. Effectivement, oui, je suis modérément républicain. Pardon de t'avoir interrompu, je suis républicain dans la mesure où la chose publique est quelque chose qui m'apporte et que je ne suis pas, fétichiste d'un régime politique, c'est-à-dire que je pense qu'un régime est légitime s'il réalise le bien commun, quel que soit ce régime. J'ai quand même tendance à penser que en France, la monarchie, plus encore la royauté, est mieux susceptible que d'autres régimes de réaliser le bien commun. Pardon de t'avoir interrompu.
Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'en fait, ce triptyque de combat pour la mémoire nationale, il pourrait paraître presque anachronique, puisqu'aujourd'hui, la mode est plutôt à l'effacement, à la déconstruction. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ni chez les héritiers de Michelet à l'époque, ni chez ceux qui sont plus liés à une généalogie catholico-monarchiste de cette époque, il n'y a de volonté de déconstruire la Jeanne d'Arc. Il y a plutôt volonté de se l'approprier. Et ça dit quelque chose aussi du rapport de la mémoire qui a évolué autant en un siècle, malgré la violence des débats qui les affrontaient et que tu mets en scène. L'objectif central de ce débat a complètement évolué entre nos deux manières de percevoir l'histoire.
Oui, c'est certain. Aujourd'hui, on peut évidemment considérer que le patriotisme s'est entièrement déplacé du côté droit de l'échiquier politique et que les idées internationalistes, même si elles peuvent parfois prendre la figure d'une défense souverainiste contre l'Union européenne, en fait, l'option internationaliste est très clairement aussi bien celle du libéralisme que, je dirais, que du gauchisme. même. Bon, cela étant dit, alors qu'à l'époque, évidemment, en 1920, on peut considérer que, au sortir de la Première Guerre mondiale, les différentes sensibilités politiques, les bleus et les blancs, sont tout de même, je dirais, des défenseurs de l'indépendance nationale. C'est un peu moins le cas tout de même des rouges, puisqu'il y a un des personnages du dialogue qui est quand même en train de glisser vers le côté rouge du spectre politique, d'où cet affrontement entre un blanc, un bleu et un rouge. Et donc, évidemment, les couleurs, hein, j'ai essayé de mettre cela en scène, les couleurs du drapeau tricolore. Bon, le rouge est quand même déjà, mais j'essaye de l'expliquer de manière, je crois, rationnelle et loyale, intellectuellement parlant, et déjà, je dirais, dans une option anti-patriotique et du moins une position de pacifisme exacerbée, eu égard à la boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai, je crois qu'il est important de le mettre en exergue. En 1920, lorsque la loi sur le patriotisme et en l'honneur de Jeanne d'Arc est votée, chacun a une vision différente de ce qu'a été Jeanne d'Arc. Chacun a une vision différente de ce qu'est le patriotisme. J'essaye, je dirais, de le mettre en exergue. Mais au moins, il y a, je dirais, ce point commun qui permet tout de même la discussion. Aujourd'hui, on en est arrivé quand même à une incompréhension très nette, hein, entre ceux qui considèrent que de toute façon le corps social est une construction purement artificielle, que eh bien la nation n'est que ce qui la compose à un moment donné, n'a pas d'héritage, n'a pas d'identité ontologique qui lui est donnée par l'histoire, et par conséquent, effectivement, il y a une incompréhension entre ceux qui entendent défendre la France et ceux qui, dans le fond, considèrent que cette entité politique et sociale est désormais reléguée, doit être désormais être reléguée aux oubliettes et dans le passé.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Guillaume Bernard qui publie Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine aux éditions de L'Homme Nouveau. Il y a quatre personnages principaux, quatre figures principales qui vont s'affronter dans ce qui est présenté comme 12 rounds. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as voulu penser ces quatre personnages?
Alors, déjà 12 rounds. Oui, c'est vrai que c'est un match de boxe. C'est-à-dire que c'est à la fois un affrontement, alors il y a le côté intellectuel, le dialogue socratique, et puis il y a quand même un affrontement presque physique et viril. N'oublions pas que nous sommes avec quatre personnages qui ont fait la Première Guerre mondiale. Donc, ce ne sont pas des chochottes. Ils peuvent se dire les choses très clairement et de manière virile. Et il n'y a pas dans mon texte, je suis moi-même assez rétif, je dirais, à toute forme d'ésotérisme. Moi, j'aime l'exotérisme, hein. J'aime que les choses soient clairement dites. Et je trouve que très souvent, lorsqu'un texte est nébuleux, ce n'est pas parce qu'il est extrêmement intellectuel, c'est parce qu'en fait, il est mal pensé. Bon, cette parenthèse étant faite, il y a effectivement quatre personnages. Les deux principaux qui rentrent en scène au départ, eh bien, c'est un abbé plutôt royaliste, et puis un avocat qui est incontestablement républicain, très Troisième République, on voit bien la chose. Et puis se joignent à ces deux principaux débatteurs, eh bien deux autres, deux frères, qui se révèlent être eh bien l'incarnation d'une certaine manière de ce que va devenir le débat politique dans les années à venir. C'est-à-dire que l'avocat et l'abbé, eh bien finalement, c'est le débat tel qu'il existe en France depuis la Révolution française. Et puis les deux frères qui se joignent à la conversation, eh bien c'est le débat tel qu'il va s'orienter dans les années qui vont suivre eh bien la Première Guerre mondiale. Avant, eh bien c'est l'affrontement entre le bleu et le blanc. Et puis après, eh bien c'est l'affrontement entre le conservateur. Alors, est-ce qu'il est un peu peu blanc de temps en temps, mais il est un peu bleu quand même à d'autres moments. C'est-à-dire que c'est toute l'ambiguïté de la pensée conservatrice. Et puis de l'autre côté, le rouge, hein, celui qui est comment dire, adepte d'une philosophie politique rationaliste, matérialiste et pour le coup internationaliste. Donc voilà, on se retrouve avec quatre débatteurs qui sont avec des âges relativement différents, les deux premiers sont plus âgés que les deux autres, mais qui en même temps ont vécu les mêmes événements récents, la Première Guerre mondiale. Eh bien, on se retrouve avec toute la palette politique et avec des sensibilités qui sont à la fois tranchées, mais dont j'espère avoir réussi de les traduire de manière intellectuellement loyale. Le blanc, le bleu, le rouge, voilà les trois positions politiques qui sont irréconciliables. Alors, je ne sais pas s'il faut, comme on dit, spoiler, alors sur Radio Courtoisie, utiliser des termes
On est beau dans beaucoup
britanniques.
trop d'anglicisme, là, Guillaume, depuis le début.
Depuis le début, le round, etc., monter sur le ring. Bon, donc je vais effectivement éviter. On ne va pas révéler la fin du débat, parce que l'intérêt aussi, c'est bien sûr de voir comment les choses se mènent au fur et à mesure. Mais il est clair que les positions sont au final, même si ponctuellement il peut y avoir des convergences, au final, ces trois positions sont irréconciliables. Et j'essaye de montrer en quoi finalement elles le sont véritablement.
Est-ce que cet aspect inconciliable, il tient pour toi principalement à une conception naturelle, j'allais dire qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que la ville, la cité, ou est-ce que la fermeture au spirituel, à la fois à la révélation, à ce qui fait partie de l'identité de Jeanne d'Arc, engendre finalement une incompréhension de fait et un élément presque indépassable?
Alors, évidemment, tu mets le doigt sur le cœur de la question. D'un point de vue de la philosophie politique, la vraie question, c'est de savoir si l'on adhère ou non à la phrase d'Aristote, et là, ça peut réunir des chrétiens et des païens, est-ce qu'on adhère à la question, à brandir la formule, l'homme est un animal sociable? Si oui, effectivement, on appartient plutôt à une pensée classique, face, je dirais, à la modernité politique qui, elle, considère que le corps social est une construction, artificielle, hein, bien sûr. Mais peut-être que mon texte met un peu les pieds dans le plat. Dans un débat actuel, on le sait bien, dans le cadre du milieu, je dirais, ou du camp national populiste, c'est-à-dire ceux qui, dans le fond, réduisent la religion simplement à un aspect culturel. Alors, que les choses soient bien claires entre nous, hein, il est bien évident que je défends parfaitement le fait que le catholicisme fasse partie de la culture, n'est-ce pas, de la France, de l'identité de la France, mais que pour autant, évidemment, on ne peut pas forcer les personnes au fort interne, on ne peut pas les obliger à croire, hein, que les choses soient bien claires. On ne peut pas non plus, évidemment, exiger d'eux une pratique cultuelle qui ne serait pas, je dirais, à laquelle ils n'adhéreraient pas. Mais,
Et par
mais,
ailleurs, ce ne
mais.
serait pas catholique.
Et d'ailleurs, ça ne serait pas catholique. Mais je crois que, comment dire, ne voir dans Jeanne d'Arc et ne voir dans la place de la religion, catholique dans l'identité de la France qu'un aspect purement culturel, c'est quelque chose de réducteur. C'est un des aspects du débat. C'est une des choses peut-être qui oppose notre abbé véritablement réactionnaire et notre officier de marine, puisque oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les deux protagonistes qui se joignent à l'abbé et à l'avocat sont pour l'un un officier de marine et pour l'autre un professeur de mathématiques. Notre officier de marine, peut-être que parfois, effectivement, il penche un peu vers, je dirais, une sociologisation de la religion. Il est un peu sur des positions d'un Burke, c'est-à-dire, voilà, ce qui compte, c'est de défendre les préjugés, c'est de défendre, au sens, je dirais, des habitudes, des traditions d'un corps social, mais non pas parce que ces préjugés sont la traduction d'une vérité, mais simplement parce que, eh bien, ce sont les habitudes du corps social. Et cette tendance-là, il est bien évident que, eh bien, nous la connaissons, nous, aujourd'hui, hein, dans un certain nombre de débats internes au camp national populiste et auxquels j'essaye non pas de, comment dire, de répondre pour donner la leçon, ça n'est pas du tout mes habitudes, mais tout de même d'essayer de faire comprendre que l'aspect, comment dire, catholique de l'identité de la France n'est pas que sociologique. C'est aussi quelque chose qui véritablement prend aux tripes, quelque chose qui est susceptible d'élever, hein, je dirais, cette identité, que le particulier peut tendre vers l'universel. Et tu le sais bien, Charles, c'est un des débats évidemment les plus importants et peut-être les plus tendus qu'il y a dans, au sein de notre famille politique de manière élargie. Ceux qui ne comprennent pas que on peut défendre du particulier, une identité particulière, sans pour autant renier la capacité à l'universalité. Voilà ce que Jeanne d'Arc montre. C'est que l'on peut être pleinement français, hostile à la présence des Anglais en France, sans pour autant, je dirais, nier l'universalité du catholicisme, sans pour autant, je dirais, réduire la question religieuse à simplement une pratique sociale. Elle montre que on peut tendre vers la patrie céleste sans pour autant renier la patrie terrestre. Voilà effectivement des aspects du débat, du dialogue, qui est important. Et donc, je me doutais bien qu'en lisant mon texte, tu identifierais bien les grands problèmes. Mais voilà, les deux grands problèmes philosophiques sont ceux-là. D'un côté, le comment dire, la sociabilité naturelle contre l'artificialisme et le constructivisme. Et puis de l'autre, je dirais, la question de l'articulation du particulier et de l'universel.
Est-ce que les spectateurs et les élèves de l'ICES avaient saisi ça? Moi, ce qui m'intéresse toujours dans ces démonstrations, c'est bon, ce n'est pas nous faire trop de louanges que d'imaginer que nous pouvons distinguer ça assez facilement. On y a passé quelques émissions déjà, Guillaume. Mais dans la
Oui.
réception auprès du public, est-ce qu'il a compris où tu voulais aller en venir? Est-ce que tu as eu des questions, des remarques, des réactions qui t'ont intéressé justement sous ce rapport-là?
Alors, lorsqu'on a fait cette présentation écourtée du texte en 2022, si je ne m'abuse, moi je jouais le rôle de l'avocat républicain et Corentin, mon compère Stemmler, jouait le rôle de l'abbé
Il
royaliste.
faut que vous
Bon.
nous disiez comment vous avez sélectionné les postes.
Et on a essayé de, alors peut-être pas d'être totalement à contre-emploi, mais il eût été excessif sans doute que je joue le jeu du thomiste royaliste. Vous voyez, voilà. Je pense que ça aurait été trop caricatural et c'était dans le fond amusant que je prenne finalement l'habit du républicain laïciste. Eh bien, il est clair que on avait une version condensée, ce qui à la fois a fait que ça a attiré, hein, je dirais, l'attention des personnes qui étaient dans la salle, mais effectivement, il y avait peut-être comment dire, un aspect trop lourd, je dirais, les débats n'étaient peut-être pas suffisamment, comment dire, étirés pour que on puisse en saisir toutes les subtilités. Et donc, c'est justement face à des réactions de gens qui ont trouvé que c'était intéressant et que ça méritait d'être repris, que j'ai décidé, non pas de garder mon texte dans un tiroir et de passer à autre chose, mais que j'ai justement cherché à essayer de l'étendre pour que ça prenne, je dirais, la forme d'une pièce qui durerait le double du temps, 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts, pour que, eh bien, il n'y ait pas de trop de télescopage et que les différents types d'arguments qui sont opposés par les uns et par les autres, eh bien, comment dire, soit plus explicite, soit moins sous-entendu. Voilà. J'ai depuis, dans la version longue, soumis ce texte à un certain nombre de personnes. Alors, ce serait délicat, effectivement, de les nommer parce que Je suis pas sûr que, enfin, vu les positions qu'elles peuvent avoir, eh bien, je tiens pas à les mettre en difficulté au cas où. Mais enfin, aussi bien un historien grand spécialiste de Jeanne d'Arc que je dirais des spécialistes de la du spectacle et du scénario, dans tous les cas, ils m'ont fait le compliment, la gentillesse, et ça m'a beaucoup flatté de dire qu'à la fois il y avait une véracité dans les événements évoqués et que les enjeux philosophiques étaient bien mis en exergue, et de l'autre côté qu'il y avait un certain suspense qui pouvait ne pas exclure totalement, eh bien, que cette pièce puisse être un jour adaptée sous une forme cinématographique. Donc voilà, des personnes qui ont des regards très différents, l'un avec une exigence universitaire et l'autre avec, je dirais, une vision plus liée à la, comment dire, à la production d'œuvres destinées au grand public. Dans les deux cas, ils m'ont fait l'amitié de me dire que c'était que le but était atteint. Étant entendu naturellement que la perfection n'étant pas de ce monde et n'étant pas Jésus-Christ, évidemment, tout est améliorable, bien sûr.
Encore un petit sujet, Guillaume Bernard. Dans cette évolution, tu vois des familles spirituelles, idéologiques françaises très marquées. Certains ont l'impression ou prétendent aujourd'hui que ces familles ont un intérêt entomologique. Et d'ailleurs, ils peuvent admettre le caractère heuristique de ces débats. C'est intéressant pour l'histoire de la pensée de les maîtriser, de les connaître. Voilà, il y a une approche intellectuelle. Toi, je crois qu'au contraire, tu penses que ces idées, ces convictions, ces manières de les exprimer ont des conséquences encore aujourd'hui. Et que c'est pour ça qu'il est intéressant de les mettre en scène, parce qu'elles sont les racines de positionnements politiques contemporains.
Oui, c'est exactement cela. C'est ce que tu vas être comment dire, en interview tout à l'heure avec lui. C'est ce que Tuc Dual-Denis, pour valeur, me permet de faire. C'est-à-dire, et même je pense que s'il me l'a demandé, c'est un peu parce que je crois qu'il pense que c'est utile. Comment on peut, eh bien, à travers, par exemple, la question de la fiscalité, montrer qu'il y a des enjeux, je dirais, de droit. Qu'est-ce que c'est que la propriété, voilà. Je pense que il faut remonter à la source des problèmes pour les identifier de manière plus sereine. Et je me suis très souvent rendu compte que parfois des personnes qui pouvaient avoir des positions relativement différentes, ça tient souvent, je dirais, à des incompréhensions d'ordre plus psychologique que philosophique. Et donc, je pense qu'il faut effectivement essayer de démêler le fil de l'histoire des idées, qu'il faut remonter aux sources pour, comment dire, identifier les filiations, pour éviter, je dirais, les incompréhensions qui sont parfois, comme je viens de le dire, liées à de la psychologie ou à des habitudes sociales. Et donc, oui, le cas de Jeanne d'Arc, alors, c'est bien sûr, ce texte, ce dialogue, c'est bien sûr un jeu de l'esprit. Cette conversation n'a jamais eu lieu, mais elle aurait pu avoir lieu. Et elle, je crois, participe, je dirais, de l'explication que l'on a, enfin, je veux dire, de l'explication des difficultés que nous avons aujourd'hui. Lorsque, effectivement, les Républicains, en 1920, votent la loi pour en l'honneur de Jeanne d'Arc, eh bien, ils le font parce qu'on est encore dans une société qui est culturellement unifiée. Mais il n'empêche qu'ils ont une conception artificielle du corps social qui ne peut que les conduire à aujourd'hui, eh bien, renier dans le fond Jeanne d'Arc parce que elle apparaît comme étant, eh bien, une fille du peuple qui défend le roi, une fille du peuple qui est catholique et qui ne conteste pas l'institution de l'Église, même si par ailleurs elle est persécutée par des hommes d'Église. Et donc, voilà, j'espère avoir à peu près répondu à ta question. Il me semble très clair qu'il faut que nous fassions l'effort de ne pas nous contenter des termes du débat tels qu'ils existent aujourd'hui, mais qu'il faut essayer de les clarifier. Je suis assez, alors je devrais peut-être
Je vais t'interrompre,
dire, mais...
Guillaume.
Oui.
On est arrivé au terme de ce
Parfait.
passage. Je rappelle le titre de ton ouvrage, « Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine », c'est aux éditions de l'Homme Nouveau. Il y a le texte et évidemment le sous-texte qu'on a essayé de vous présenter. C'est à mettre entre toutes les mains et à très vite au micro de Radio Courtoisie, Guillaume Bernard.
Merci infiniment Charles, à très bientôt.
Nous faisons une pause musicale et nous retrouvons Tuc Duel-Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui nous vient avec son tout dernier ouvrage qui fait beaucoup parler, « La cendre et le feu, enquête intime au cœur de la droite française ». C'est un récit aux éditions Robert Laffont, la musique et Tuc Duel-Denis.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ça fait partie des livres politiques que vous retrouverez dans les bonnes librairies. Tuc Duel-Denis, La cendre et le feu. Tuc Duel-Denis, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On vous retrouve comme éditorialiste sur BFM TV. Vous avez travaillé à L'Express, au Point. Et vous nous venez avec cette enquête intime au cœur de la droite française chez Robert Laffont. Et aussi un peu au cœur de Tuc Duel-Denis, si on peut dire.
En tout cas,
si
au cœur de
dire.
La famille Denis.
Puisqu'on va trouver à la fois les richesses que vous avez eues dans ce microcosme, c'est un terme que vous aimez particulièrement, aussi les fêlures, les difficultés. Et puis, tout ça nous permet d'éclairer vos rencontres très diverses au sein de votre expérience journalistique, des figures politiques que vous aviez déjà particulièrement explorées, Édouard Philippe, François Fillon, d'autres sur lesquels vous revenez en profondeur, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen également, et puis un détour par Jean-Luc Mélenchon, et surtout une place accordée au second couteau, aux conseillers, aux collaborateurs, à ceux qu'on ne cite pas toujours dans ces ouvrages-là, qui est très intéressante aussi sur votre manière d'aborder votre travail. Mais j'ai envie de commencer par une autre question, Denis. D'habitude, quand un journaliste fait un livre, c'est un livre politique. Vous refusez absolument ce terme, c'est un récit. Et vous mettez un peu votre peau sur la table pour écrire cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a convaincu de mettre autant de vous dans ce livre? Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous mettre un peu à nu par moment pour servir votre analyse?
Je pars du principe que le grand paradoxe des témoignages, c'est qu'ils peuvent être universels. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus parlant finalement que d'évoquer sa grand-mère mourant à 34 ans, emportée par une maladie, pour permettre une identification avec d'autres lecteurs, plutôt que de raconter la vie des puissants dans laquelle on a du mal à se projeter. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que c'est vrai que j'ai été habité par ce projet depuis des années. J'ai mis 3 ans à écrire ce livre et ça fait 10 ans que je le mûris. Parce que être de droite et être né dans la banlieue ouest parisienne, au sein d'une famille de 6 enfants, allant à la messe en latin, faisant le pèlerinage de Chartres tous les ans, se rendant à l'école à Saint-Pilice, à Saint-Cloud pour ceux qui connaissent, et s'habillant comme on s'habillait peut-être autrefois.
Culotte de peau dans le RER, si j'ai bien compris.
Il paraît que ma maman est pas contente parce que je dis beaucoup trop souvent que j'étais en culotte de peau et c'est vrai qu'on l'a mis quelques fois. Mais sinon, on était en Bermuda, en Bermuda dans le train. Mais en tout cas, j'ai grandi avec la conscience devant l'évidence que nous étions devenus des anomalies. Et cette espèce de ressenti d'être une anomalie quand on est enfant et qu'on veut ressembler à tout le monde, je concède l'avoir vécu parfois comme une difficulté. Et en fait, ma vie s'est construite autour de la politique, c'est-à-dire la politique au sens très large du terme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dès qu'on arrivait dans un restaurant, c'était un message politique qu'on envoyait en étant 6 enfants habités pareil. Dès qu'on prenait les transports en commun en étant habillé de la manière dont on était, c'était pareil. J'ai été paroissien d'une église à Port-Marly dans les Yvelines.
Dont vous racontez l'histoire.
Dont je raconte l'histoire, qui a connu des grandes difficultés au moment où l'évêque de Versailles a voulu mettre un prêtre qui disait la messe en français pour célébrer la messe au lieu de la messe en latin qui était l'habitude de cette église et qui faisait que des milliers de paroissiens venaient chaque week-end là-bas. Et comme je dis dans le livre, même sur les bancs de l'église, même dans les églises, nous étions sur les bancs de l'opposition. Donc si vous voulez, j'ai toujours eu l'impression d'être à contre-courant de la société. Ça m'a vraiment forgé, ça m'a aussi parfois complexé. Et en fait, ce livre, c'est une forme de boucle bouclée, c'est-à-dire je voulais un peu rendre grâce au milieu dans lequel j'ai été élevé, en expliquant pour ceux qui le caricaturent que oui, il y a des archétypes, mais que ces archétypes, ils peuvent être très féconds, que cette France a la voix au chapitre, et que ça soit dans mon cas, mais comme dans le cas de d'autres personnalités de droite, publiques ou privées qui sont dans le livre. Je pense à Jean-Pax Méfré, qui est un chanteur, qui a pas du tout la même histoire que moi, mais qui a grandi en Algérie, donc qui a vécu la blessure de l'Algérie française. Après, il a pas eu le droit d'avoir sa place dans le monde de la variété française parce qu'il chantait des chansons contre le communisme ou contre le politiquement correct, et que évidemment, ça l'a immédiatement privé des grandes salles de concerts, ça l'a évidemment privé des grandes radios de la bande FM. Je parle de François Fillon, qui a eu une vie très conventionnelle, lui, avant, qui a été Premier ministre plusieurs fois, et à partir du moment où, comme par hasard, il devient certes libéral, mais aussi conservateur, et qui fait une campagne, entre guillemets, assez radicale, en 2017, il se prend les 7 plaies d'Égypte sur lui, et que donc, on est tous façonnés par cette marche à contre-courant, et qu'en même temps, je trouve que c'est un peu la grandeur de la droite française, c'est-à-dire que on est pas quand on naît à droite, naît du verbe naître, on se sent assez rapidement pas du bon côté de la société, et en même temps c'est ce qui fait tout notre charme, ou tout le charme de ce qu'on nous fait vivre, parce que résultat, ça nous aguerrit, et puis ça nous fait rendre compte que tout cela est absolument injuste, et moi ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, que je veux un peu comme le roman de la droite française, c'est, quand je dis roman, c'est justement parce que je voulais rendre compte des paysages, des personnages, des codes sociaux, des représentations du monde. Je me fiche pas mal, en fait, si vous voulez, des partis politiques en tant que tels. Et c'est pour ça que dedans, il y a autant d'ailleurs François Bayrou que Marine Le Pen. Parce que moi, je suis désolé, il y a un moment, quand François Bayrou, il me parle de Bernanos, et que Marine Le Pen, elle me parle de la manière dont elle avait vécu le regard du clergé sur elle quand elle était jeune, ou son enfance à Saint-Cloud, ou la volonté qu'elle avait d'enterrer son père en 2 fois, parce qu'une première fois pour enterrer son père et une deuxième fois pour enterrer Le Pen. Tout ça, à la fin, je trouve, participe d'une sociologie commune et je dirais même d'une mythologie commune.
Vous écrivez ainsi « Mon milieu d'origine ne respecte pas la géométrie. Il se situe à la marge. La vie dans ce monde parallèle a des allures de peinture baroque. Tout y est hypertrophié, les expressions, les tenues, les caractères. Cet univers archétypal m'a permis d'assister à des drames fondateurs ou à des défaites glorieuses, d'étudier des décors remarquables, de tisser de nombreux réseaux immortels. » Qu'est-ce que vous avez gardé, finalement, après des expériences, des allers-retours, d'immortel de cette enfance dans ce microcosme ?
Alors, avant de vous dire ce que j'ai gardé, j'ai quand même envie de vous parler de, justement, des allers-retours et en tout cas des contrastes saisissants aussi qu'offre une éducation dans un milieu pareil. Je raconte dans le livre un voyage à Cuba avec une ancienne petite amie qui venait d'un milieu extrêmement différent du mien. Ses parents étaient, lui, régisseur dans le monde du spectacle, elle, ingénieur du son. Sa grand-mère était monteuse dans le cinéma, ayant suivi la carrière d'Henri Verneuil comme monteuse, puis remariée à un acteur cubain, vivant à La Havane. Et j'ai eu la chance d'aller 40 jours dans sa maison à La Havane un été, et de discuter avec cette femme qui était à l'avant-garde du féminisme, à l'avant-garde d'une certaine gauche un peu assez radicale, mais culturelle. Et en même temps, je trouvais ça extraordinaire, parce que moi, je lui racontais mon scoutisme paramilitaire, je lui racontais mes messes en latin, je lui racontais les soutanelles qu'on portait à Port-Marly pour servir la messe, je lui racontais les musiques qu'on écoutait, je lui racontais que je voyais mes parents, je lui racontais ce que c'était que la vie d'une famille nombreuse. Et c'est pour ça que, même si, effectivement, mes parents, parfois, ont pu être blessés, que je fasse une sorte de crise d'adolescence, même si ça s'est toujours, je crois, passé dans des proportions à peu près acceptables. Hein. Mais en même temps, je confesse avoir une affection pour l'émancipation, parce que je trouve ça beau, les retours aux sources, et je suis de lire la Bible pour s'en convaincre, et la parabole de l'enfant prodigue. Et par définition, il n'y a pas de retour aux sources s'il n'y a pas d'émancipation avant. Et d'avoir pu vivre, c'est justement ces contrastes saisissants et saisissants. Et c'est pour ça que j'ai essayé de les mettre pas trop loin dans le livre, pour que les lecteurs, justement, comment dire, vivre des montagnes russes culturelles et politico-sociologiques de ma vie qui a été la mienne à un moment de régisseur dans le monde, moi aussi, du cinéma. Et j'ai travaillé pour les concerts de Johnny Hallyday au Stade de France. Autant dire que dans l'équipe technique, on devait être 250. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui votait à droite. Et peut-être deux qui allaient à la messe le dimanche, vous voyez. Et en même temps, je me retrouve après, à Valeurs Actuelles, embauché par Geoffroy Lejeune. Et puis là, c'est une sorte de retour aux sources pour moi, pas à pas. Et ce livre en est un peu l'aboutissement. Ça m'a permis de retrouver, par exemple, des amis comme les Sevilla. Alors, vos auditeurs connaissent forcément Jean Sevilla, l'historien et journaliste. Et il se trouve, c'est du Figaro, et qui a écrit une biographie de l'impératrice Zita autrichienne, qui avait eu énormément de succès. Et Jean Sevilla a plusieurs enfants, dont des jumeaux, Nicolas et Benoît, qui étaient au collège avec moi à Saint-Joseph, à Saint-Cloud.
Compagnons de vos premières escapades, de vos premières...
Totalement compagnons de mes premières escapades, de mes premières bêtises d'adolescent. Mais eux, on s'est jamais trop perdu de vue. Mais eux, justement, ils n'ont pas fait de crise d'adolescence. Eux, ils ont été cofondateurs des éveilleurs, enfin des veilleurs déjà, de la Manif pour tous. Ils ont beaucoup milité à l'époque contre le mariage homosexuel, qui était, moi, un thème sur lequel je n'étais pas spécialement engagé.
Vous étiez journaliste à l'Express.
J'étais journaliste à l'Express, et honnêtement, j'étais plutôt pour. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est plutôt un sujet sur lequel j'ai pas vraiment d'opposition. Enfin, je trouve qu'il y a énormément d'autres urgences à régler en France, à commencer par l'insécurité et le maîtrise des flux migratoires, par exemple. Eux, effectivement, ils sont restés dans ce milieu, ils ont entrepris plein de choses, ils ont monté des conférences au Palais des Congrès à Versailles pendant des années, en invitant François-Xavier Bellamy, Michel de Gégère ou Philippe de Villiers. Et je trouve ça formidable que finalement, on se retrouve maintenant, à travers le livre, mais aussi à travers la vraie vie. Moi, j'ai eu mes petits détours, ils m'en veulent pas du tout, parce que comme tous les gens de droite, ils sont moins sectaires que les gens de gauche. Ils m'apportent, eux, un enracinement peut-être plus fort et des convictions très ancrées et peut-être une rigueur de vie, etc. Et moi, modestement, j'essaie de leur apporter un peu de voyage culturel.
Ça fait partie des réseaux immortels.
Alors, quand j'ai écrit cette phrase, c'est amusant que vous y pensiez, enfin déjà que vous le souleviez et puis que vous fassiez le lien avec Sevilla. Quand j'ai écrit cette phrase et ça m'a permis de tisser des réseaux immortels, je pensais précisément aux jumeaux Sevilla.
Et ces réseaux immortels, ils sont souvent incarnés. C'est quelque chose qu'on sent affleurer régulièrement dans vos lignes. Tuc du Hel de Nice, une forme de grande sensibilité, d'affection pour les gens, d'affection au moins de grand attachement aux gens sur lesquels et avec lesquels vous travaillez comme journaliste. On voit que vous êtes touché personnellement quand il y a une incompréhension ou simplement une bataille d'interprétation sur un fait ou une idée. Est-ce que c'est pas lourd à porter dans votre métier au quotidien, cette affection, cet amour pour les gens en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on peut dire de votre texte, alors que vous faites face parfois à des monstres politiques, et peut-être exagérés, mais à des hommes capables de dureté, capables d'encaissement, et qui peuvent paraît être aux antipodes de cette émotivité dans les relations humaines.
Non, mais c'est vrai que je dois confesser, hein, être sûrement un peu trop sensible et un peu trop émotif pour exercer le métier de journaliste politique, voire même de directeur de la rédaction d'un journal. Et en même temps, bah, c'est aussi ce qui me permet de tisser des fidélités, de peut-être avoir peut-être de l'empathie, y compris avec des gens avec lesquels je suis pas toujours d'accord politiquement. Je prends beaucoup les choses à cœur et effectivement, quand Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne législative de 2012, va affronter Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et est d'humeur exécrable pendant 3 jours vis-à-vis des journalistes qui l'accompagnent, dont moi-même, qui était à l'époque journaliste à l'Express, et que à un moment, il s'arrête dans un café et qu'il me dit « Vous, retournez à Paris, sale petit espion. De toute façon, je sais très bien que familialement et personnellement, vous êtes lié à l'extrême droite. » Ça m'a complètement décontenancé, parce que déjà, je me demandais comment il savait. qu'est-ce qu'il savait sur ma famille, que d'ailleurs, je revendique pas d'extrême droite, mais parce que c'est un mot qui veut rien dire. Enfin, en tout cas, ça veut pas dire ce qu'on est, nous. L'extrême droite, ça veut dire anti-parlementariste, antisémite, etc. Et mes amis et mes parents ne le sont pas du tout. Maintenant, on est de droite très conservatrice, ça c'est sûr. Et donc ça m'a bousculé. Bon, je raconte dans le livre une scène pas vraiment à ma gloire. Hein. J'ai entre guillemets essayé de m'incruster en termes de tireur d'Hisson.
Ah bah vous avez aussi une vraie transparence dans la manière de le raconter.
En fait, je connaissais assez bien tireur d'Hisson. Je sais pas, un ami intime, mais on s'était vu pas mal de fois, on s'appelait, etc. Il me donnait des conseils d'ailleurs sympathiques pour Valeurs Actuelles. En tant que lecteur, pas en tant que personne qui partageait toutes les valeurs de Valeurs Actuelles, mais parce que lecteur quand même, curieux d'esprit, et puis aussi publicitaire, voilà, quel
sens. Génie, etc.
Exactement.
Tout le monde le reconnaît.
Tout le monde le reconnaît, quel sens du slogan. Et donc en fait, j'ai voulu aller à son enterrement et je m'en suis fait barrer la route tout de suite. Il y a même des policiers qui sont venus me voir en disant « Bonjour monsieur, préfecteur de police, on préfère que vous soyez pas là, etc. » Et donc j'ai ressenti effectivement une humiliation totale, que par ailleurs j'étais venu chercher tout seul comme un grand. Mais... qu'il ne serait peut-être pas arrivé à un journaliste de Télérama ou tout autre.
Ou même à un journaliste qui se serait senti moins marqué par la mort de quelqu'un avec lequel il avait travaillé.
Oui.
Je pense que ça fait aussi partie de ce que vous êtes.
Oui, c'est vrai. Moi, je suis allé là-bas parce que j'aimais beaucoup ce monsieur. Et en tout cas, bon, c'est vrai que moi, c'est aussi ça que je suis allé rechercher chez mes personnages. Je trouve que François Fillon est un homme sensible. Je trouve que François Bayrou est un homme sensible. Je trouve que Marine Le Pen a une vie incroyable. Je pense qu'elle est très sensible. Je pense qu'elle a une énorme carapace, mais je pense qu'au fond, elle vit des choses sur le plan personnel. Elle a vécu tellement de vies en une seule, tellement de drames, tellement d'expropriations dans tous les sens du terme, que ça en fait à la fin évidemment une personnalité très humaine, si je puisse utiliser cette expression un peu galvaudée, mais dans son cas. Est tout à fait nécessaire. Et puis après, je veux pas jouer à l'écrivain, mais si vous voulez, moi je suis pas politologue, je suis journaliste, mais je le vis avec mes tripes. Quand j'écris, j'ai aussi besoin de pleurer, de rire, de ressentir des choses. Je pense que c'est ça qui fait la beauté de l'existence, et que si on s'en tient qu'au combat idéologique, on passe à côté de choses. C'est aussi pour ça d'ailleurs que quand je discute avec Édouard Philippe ou avec son ancien directeur de cabinet Benoît Ribadeau-Dumas ou avec Nicolas Sarkozy ou que je relate des épisodes de la vie de mon frère prêtre Alban, qui est chanoine de l'Institut du Christ-Roi, souverain prêtre, un prêtre traditionnaliste, j'ai pas envie de parler que de théologie ou pas envie de parler que d'éléments programmatiques. J'ai évidemment envie de parler de ce qu'ils ressentent eux aussi, de leur souffrance, de leur stigmate, de leurs élans et de leur joie.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles Demeyère reçoit Tuc Duel-Denis, qui publie La cendre et le feu aux éditions Robert Laffont. Tuc Duel-Denis, on voit aussi une capacité à vous laisser saisir, entraîner, impressionner, ce serait pas un bon mot, mais par des figures.
Impressionner peut-être, non, si. Okay.
Comme Édouard Philippe, François Fillon, vous avez des portraits très réussis, très attentifs aux détails, et on voit que vous gagnez au-delà d'une relation professionnelle de loin. François Fillon vous expliquait l'histoire de votre amitié, donc au moins c'est explicite, mais on voit aussi une complicité énorme avec Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ces rencontres? Est-ce que c'est des hommes un peu exorbitants du quotidien? Est-ce qu'au contraire, c'est cette profonde humanité qui peut vous toucher? Finalement, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ces rencontres humaines que vous nous relatez dans cet ouvrage?
J'ai toujours été frappé de voir à quel point mes confrères, les journalistes politiques, éprouvaient à l'égard de leur objet d'étude une forme de fascination-répulsion et souvent une forme d'hostilité. C'est-à-dire qu'ils passent leur vie à décrire le pouvoir en étant, entre guillemets, souvent un peu des révolutionnaires.
Un peu goguenard.
Oui, un peu goguenard, un peu méprisant pour cette fonction d'élu, très suspicieux toujours. Vous voyez, la petite musique médiatique, c'est « faut pas de cumul des mandats, faut que les hommes politiques gagnent 1200 euros par mois, faut qu'ils soient dans les mains des juges toutes les 4 secondes, faut plutôt parler de leur bassesse que de leur grandeur ». Et moi, je vous avoue, et c'est vraiment très sincère, le nombre de gens incroyables que j'ai rencontrés dans ma vie, et que moi, j'essaye d'être une éponge, si vous voulez, j'essaye d'être pas dans la fausse modestie, mais je suis moins cultivé qu'eux, j'ai moins de pouvoir qu'eux, j'ai moins d'expérience qu'eux, j'ai moins de courage qu'eux, j'ai moins de compétences qu'eux. Et honnêtement, par exemple, pour reprendre le cadre, Benoît Ribadeau-Dumas, ancien directeur de cabinet d'Edouard Philippe, major à l'ENA de la même promo que Edouard Philippe, qui a aussi fait Polytechnique, qui a travaillé dans l'industrie, chez Thalès, chez Safran. Aujourd'hui, il travaille avec John Elkann, l'héritier Agnelli, qui est propriétaire de Stellantis, de Ferrari, et de la Juventus Turin. Bref, un voltigeur de la finance mondiale.
Des petits emplois.
Des petits emplois. Il a été directeur de cabinet à Matignon, qui a un boulot d'une technicité incroyable. C'est vraiment, vous êtes vice-premier ministre bis, mais dans la partie technique du job. C'est-à-dire que c'est pas aller parler à l'Assemblée nationale dans le député, c'est parler à des directeurs d'administration centrale sur des mécanismes fiscaux, sur le déploiement des collectivités territoriales, sur l'agenda des politiques publiques. C'est un boulot considérable, et d'ailleurs qui vous dévore la vie. Et en même temps, c'est un père de famille, quand il me raconte la manière dont il éduque ses enfants, je trouve ça incroyable, un mélange d'exigence et de bienveillance. Vous parlez d'histoire avec lui, il connaît tous les siècles par cœur, il peut vous faire une demi-heure sur le 11e siècle en Italie, quoi, vous voyez. Il connaît la peinture, il connaît tout. Et donc moi, pouvoir côtoyer des gens comme ça, je trouve ça, c'est la meilleure manière de rattraper les études pas assez longues que j'ai faites, ou de rattraper tous ces livres que j'ai pas lus, ou tous ces films que j'ai pas vus. Et je trouve qu'il y a, et c'est pour ça que je dis aussi dans le livre, il y a des personnages à la qualité inégalée. Il y a évidemment de la petitesse, et honnêtement, dans la génération d'aujourd'hui, on trouve moins de grands fauves. Mais dans mon livre, les personnages principaux, ça reste quand même donc François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Stéphane Bern, Édouard Philippe, François Fillon, les Le Pen. Honnêtement, c'est des gens à la surface considérable, qui ont des existences tellement riches, tellement profuses, qu'ils ne peuvent que rayonner et irradier sur leurs interlocuteurs, et j'ai toujours essayé d'aspirer ça chez eux.
Cette aspiration, on l'a dit, elle vient d'une grande attention à leurs entourages, à leurs actions, à une capacité aussi à recevoir leur confidence. Il y a un homme avec qui, finalement, on voit qu'il y a toujours eu une sorte d'âpreté, vous corrigerez le terme, si vous voulez, c'est Jean-Marie Le Pen.
J'étais sûr que vous alliez dire lui. Ouais.
Jean-Marie Le Pen, parce que il y a une sorte, là pour le coup peut-être de débit lié à votre jeunesse, oui. Et en même temps de déception dans certaines de vos rencontres, parfois de son fait, parfois du fait des circonstances. Vous avez une scène formidable avec Jean-Marie Le Pen attendant les clés que Jeannie a cachées. Quand vous le rencontrez, vous cherchez quoi, Jean-Marie Le Pen? Parce que vous ne le rencontrez pas au fait de sa gloire. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment?
Alors écoutez, on va reprendre l'histoire par le commencement. J'ai grandi donc à Louvciennes, en banlieue parisienne, et nous étions au collège à Saint-Cloud, au collège Saint-Joseph. Et le collège Saint-Joseph à Saint-Cloud avait la particularité, à l'époque où le Front National, puisque ça s'appelait comme ça, avait son siège, d'être à un kilomètre du siège du Front National. Moi, j'avais 11 ans, 12 ans, c'est bizarre de dire militant, parce que j'étais pas non plus encarté ou quoi que ce soit, mais en gros, j'étais fan de Jean-Marie Le Pen, hein, on va pas se dire les choses autrement. Et donc, après, quand sonnait à 16h30 la sonnerie du collège, je dévalais Saint-Cloud 4 à 4, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville perchée sur une colline, donc c'est en pente ou en montée. Et donc je dévalais Saint-Cloud du haut vers le bas pour aller récupérer des autocollants, des goodies, comme on dit, donc des petits savons, tête haute, main propre, du Front National de l'époque. Un jour, carrément, on nous dit « Ah ben, vous voulez voir Jean-Marie Le Pen ?» Ben, il est là et tout, donc on arrive avec mes camarades qui m'accompagnaient dans une pièce. Il est de dos, il entend notre voix dire bonjour monsieur, et il se retourne en disant « Oh, ça c'est vraiment Junior !» Et il avait un look d'acteur hollywoodien avec un costume de banquier, une pochette dans la veste, les cheveux gominés en arrière comme les riches, et sa tête de star de la politique française. Et donc j'avais une espèce de fascination pour lui. On allait l'espionner à Montretout, qui pour le coup là était littéralement à 450 mètres de notre collège. Donc on rentrait dans le parc de Montretout, on espionnait sa maison, et puis parfois arrivait la Renault 25 Baccarat aux vitres noires fumées de Le Pen qui revenait de je ne sais quel rendez-vous, et enfin on avait l'impression de voir Alain Delon ou la voiture d'Alain Delon. Donc ça, c'était pendant ma prime jeunesse. Après, j'ai fait la crise d'adolescence dont on a parlé. Et quand je suis devenu journaliste, très vite, j'ai pu l'interviewer pour une revue qui s'appelle Breton Magazine. Et là, en fait, c'est la première fois que je rentrais dans Montretout et que j'étais pas juste bloqué à la grille. Et que je discutais avec Jean-Marie Le Pen, et l'interview s'est très mal passée. Enfin, en fait, c'était plutôt sympathique, on parlait de la Bretagne, etc. Et puis à un moment, il s'est mis à refaire un dérapage sur les chambres à gaz, sans qu'on l'y pousse, honnêtement, parce que moi, j'avais l'impression, quand j'étais jeune, et je regardais Le Pen à la télévision, que c'était le journaliste de gauche qui toujours le poussait à faire des dérapages. Là, j'ai pu constater qu'il y allait parfois tout seul, en fait. Et donc, il a commencé à avoir cette tirade, etc. Et puis, c'était vraiment malaisant, parce que nous, on essayait plutôt de l'arrêter et de passer
c'était
à autre chose.
C'était pas tellement le sujet de l'entretien.
Pas le sujet de l'entretien. On voulait pas, justement, lui tendre des pièges et lui donner le bâton pour qu'il se fasse battre. Et non, il insistait, etc., dans la provocation. Bon. Et ensuite, il nous a carrément interdit de publier l'interview, son attaché de presse. Bref, ça a été tout un épisode que je relate dans le livre. Et donc, moi, j'avais cette espèce de contraste entre ma jeunesse où j'avais été fan de lui, l'adolescence où je m'étais évidemment très éloigné de cette idéologie-là, et là, mon nouveau job de journaliste où j'étais rubricard très vite sur le Front National, parce que je commence à être journaliste politique en 2011, à France Soir, et on me met sur... Mon premier déplacement, c'est d'aller au congrès de Tours où Marine Le Pen devient présidente du Front National en janvier 2016 à la place de son père. Donc je deviens un spécialiste entre guillemets du Front National en tant que journaliste, à côtoyer beaucoup de ses élus et de ses membres. Et c'est vrai qu'en arrière-fond dans ma tête, moi j'avais un peu mon secret de jeunesse que évidemment je disais à personne, que j'avais été fan de Le Pen à un moment de ma vie. Et donc au fur et à mesure des interviews que je pouvais faire de lui ou des gens qui travaillaient avec lui, j'avais cette espèce d'aller-retour dans ma tête où parfois, je me disais, les pauvres, ils sont brimés, ils sont victimes de la bien-pensance ou du politiquement correct. Et en même temps, parfois, ils me décevaient aussi par leur amateurisme, leur paresse intellectuelle, voire leurs outrances. Et donc, Le Pen, ça a été tout ça, quoi. Ça a été des moments fabuleux où il me parlait de la Bretagne, même après cette interview à Breton, hein, où il m'expliquait, mais vous voyez, ma commune, elle est incroyable, la Trinité-sur-Mer, parce que la Trinité-sur-Mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu. Ma commune, c'est pas Saint-Joseph, c'est pas Saint-Jacques, c'est Dieu lui-même, puisque c'est la Sainte Trinité. C'est un endroit où la mer s'entremêle avec la terre, puisqu'il y a une rivière qui vient se jeter, la rivière de Krak qui vient se jeter dans l'océan Atlantique. Bref, il le disait avec des mots d'ailleurs beaucoup plus beaux que ce que je peux dire là, et donc je voyais aussi quand même la finesse, la délicatesse dont était capable cet homme, et parfois aussi j'avais accès à sa brutalité, et après il y a effectivement cette scène cocasse du début du livre où je suis en train d'essayer de l'ausculter, parce que en gros je sais que ça va être ma dernière interview de lui, il est très vieux et que je suis plus rubricard et que je suis déjà directeur adjoint de Valeurs Actuelles à l'époque, et que je le vois plutôt dans le cadre de ce livre, en tout cas dans un cadre on va dire du journalisme privé que je peux exercer, et j'essaye de lui faire dire des regrets, non pas pour l'humilier, mais pour justement, je me dis, ce gars, pour la postérité, si un jour il reconnaît quand même qu'il a été trop loin deux, trois fois, ça pourra peut-être participer de sa postérité et aider les gens à voir aussi les côtés sophistiqués qu'il pouvait avoir. Bon, je suis face à un terril d'orgueil, en l'occurrence. Donc,
oui, c'est l'expression que vous reprenez dans le livre.
Exactement, ça ne fonctionne pas. Et en revanche, la scène cocasse, c'est qu'au moment de partir... En fait, Janie, donc son épouse, est partie faire des courses. Elle a fermé la maison à clé, mais elle nous a enfermés de l'intérieur. Et donc, je suis avec Le Pen, ces deux chiens qui aboient dans tous les sens, et Le Pen qui s'agace, qui trouve pas ses clés. Et en fait, on est pris en otage, et un peu comme, évidemment, une sorte de métaphore de la relation que j'avais pu avoir avec lui, où ça me renvoyait à cette enfance.
Un rendez-vous manqué, finalement.
Finalement aussi une forme de retour aux sources quand même. Et puis, en tout cas, l'idée que c'est compliqué de sortir de son milieu. Et là, clairement, c'était compliqué de partir de chez eux à Rueil.
Dans ce que vous auscultez également des rapports humains liés à votre métier, à ce milieu-là, il y a l'ostracisme qui peut s'abattre sur lui, la violence qui s'est exercée sur les enfants. Vous reprenez le cas de Marine Le Pen ou de Marion Maréchal, mais c'est constant, et que vous avez dû subir vous-même au moment d'un certain nombre d'affaires. Vous relatez les dîners auxquels on se lève en vous voyant arriver, les violences en arrivant à la crèche, je crois, après l'affaire Obono. J'ai trouvé ça très intéressant et très juste, puisque c'est un certain nombre de choses que de jeunes dirigeants ou nos auditeurs peuvent connaître.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences et en quoi est-ce qu'elles vous ont appris quelque chose pour vous-même et pour votre métier ?
Je retiens de ces expériences qu'elles sont incroyablement injustes. C'est-à-dire que non seulement on vit parfois de l'ostracisme et de la brutalité et de l'hostilité et de l'opprobre social, mais en plus on nous dénie le droit de le ressentir, de le raconter. Alors voilà, moi j'ai de la chance, je suis journaliste, j'ai le droit à une tribune, j'ai un éditeur formidable chez Robert Laffont, et donc j'ai pu raconter tout ça, et d'ailleurs mon éditeur qui est pas du tout quelqu'un de droite a été très touché, je crois, enfin si je puis me permettre cette confidence, de découvrir ça, mais j'ai aussi des amis plutôt classés à gauche qui non seulement ça ne les intéresse pas d'écouter ce genre d'histoire, mais en plus nous refusent notre statut de victime. Et dans le même temps, on est dans une société de la victimisation permanente, donc j'essaye vraiment à chaque fois, quels que soient les épisodes du livre, de à la fois être le plus authentique et de raconter ce qu'on peut vivre comme humiliation, qui en sont, comme expérience de malaise qu'on peut ressentir, et en même temps de redresser la tête. Parce que primo, c'est formateur, que secondo, je pense que intellectuellement, on est droit dans nos bottes. Moi, je sais qui je sais que je suis pas d'extrême droite, au sens de la vraie extrême droite, je sais que je suis ouvert, tolérant, que je suis plein d'amour et plein de curiosité, que on a des choses à montrer, qu'on a une esthétique,
qu'on a une culture.
Qu'on a une culture, je dirais même qu'on a une mythologie, si vous voulez, quoi. Et que même sans en faire partie, notre microcosme, il est fabuleux à décrire. C'est tellement de codes sociaux, c'est tellement de tenues, c'est tellement de musique, c'est tellement de panache, c'est tellement de fidélité. Mais c'est aussi tellement de stigmates. Vous avez utilisé le terme de défaite glorieuse au début, et c'est un terme qui, par exemple, qui s'approprie éminemment à Dien Bien Phu, qui est une défaite de l'armée française, mais qui est aussi une défaite glorieuse, parce qu'il y a cette mythologie bien décrite par Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia dans Le Dernier Carré, qui est un livre qu'ils ont écrit chez Perrin. C'est Cameron, vous voyez, qui a été chanté par Jean-Pax Meffray, les légionnaires français au Mexique, qui sont 80 coincés dans une hacienda et face à 2000 soldats mexicains et qui résistent jusqu'au dernier. C'est quand même ça aussi, la droite. Et donc je voulais à la fois témoigner de ce qu'on vit pour que nos adversaires sachent quelle est exactement notre existence, que nos amis se reconnaissent éventuellement dans ce qu'on peut vivre, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, entre guillemets. Et en même temps, je veux absolument, dans le même temps, donner nos élans. C'est pour ça que ça s'appelle la cendre et le feu, parce que la cendre, c'est évidemment les malédictions, mais le feu, c'est évidemment notre gourmandise à redresser la tête et notre capacité à vouloir écrire l'histoire, à changer le monde et à rétablir le beau, le vrai, le bien.
Qu'est-ce qui intéresse dans ce microcosme chez les personnalités politiques ou les entourages politiques éminents dont on a parlé, qui ne le connaissent pas et qui pourtant, au détour de conversation, en lisant vos livres, en partageant vos anecdotes, se disent « Tiens, ça c'est un monde et ce monde a quelque chose à donner aux autres également. »
C'est vrai que j'ai beaucoup décrit le milieu dans lequel j'ai grandi ou auquel j'appartiens aujourd'hui, parce que dans beaucoup de déjeuners avec des conseillers d'Emmanuel Macron, des conseillers d'Edouard Philippe, ou même Édouard Philippe lui-même, par exemple, je les sentais quand même fascinés. C'est pas un jugement de valeur, je veux dire, c'est au sens...
Interpellé,
vraiment curieux, en tout cas, au sens primaire du terme, de tout ça, de ce monde disparu. Comme dit Jean-Pax Meffray, je viens d'un pays qui n'existe plus, je viens d'un paradis perdu. Et je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de romanesque, une trame... assez saisissante. Alors pour moi, une des scènes qui incarne ça, c'est mon grand-père est un ancien héros de Dien Bien Phu. Il a sauté deux fois sur Dien Bien Phu. Il a été mon grand-père maternel. Il s'appelle le colonel Jacques Allaire. D'ailleurs, il a publié à titre totalement posthume, puisqu'il est mort il y a plusieurs années. Mais Perrin a édité cette année ses mémoires posthumes. Et il a été, à l'issue de Dien Bien Phu, du siège de Dien Bien Phu, de la bataille de Dien Bien Phu, il a été déporté dans un camp au Viet Minh, où il a failli mourir. Il y a eu un taux de mortalité là-bas énorme, beaucoup plus encore que dans les camps de concentration, même si c'est un volume moins important pendant la Grande Guerre mondiale. Et donc il est enterré aux Invalides, parce que c'était un des derniers héros de Dien Bien Phu, il était grand croix de la Légion d'honneur. Et Édouard Philippe, je lui envoie un SMS quand mon grand-père meurt, en lui disant, bah voilà, mon grand-père est mort, il sera enterré aux Invalides la semaine prochaine. Je lui envoie, non pas parce que j'ai déjà écrit un livre sur lui, je lui envoie parce que il a emmené mon grand-père quand il était Premier ministre lors d'un voyage au Vietnam dans la cuvette, comme on surnommait là où a eu la bataille de Dien Bien Phu. Et que donc, bon, il connaissait mon grand-père, en tout cas il avait fait au moins un voyage avec lui. Et il est venu, il était juste devant nous à la messe, et bon, vous voyez comment c'est une église, j'avais vraiment l'impression d'être 20 cm derrière sa nuque. La messe était célébrée par Alban, mon frère, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Qui a fait un sermon idoine.
Qui a fait un sermon de chanoine traditionnaliste et de petit-fils aussi de Jacques Allaire, donc évoquant le putsch en Algérie, auquel mon grand-père n'avait pas participé, mais en tout cas mon grand-père refusait de jeter l'opprobre quoi, sur ceux qui étaient partisans de l'Algérie française, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis il évoque nos guerres coloniales, et en même temps l'immense respect que mon grand-père pouvait avoir pour les Viet Minh en Indochine ou les Felaga en Algérie. Il a toujours eu énormément d'estime pour les combattants de valeur qui pouvaient être en face de lui. Par exemple, c'est lui qui a arrêté Ben Midi, je fais une petite parenthèse, mais Ben Midi qui était un des chefs de la rébellion algérienne. Il a arrêté Ben Midi pendant la bataille d'Alger. Mon grand-père était un lieutenant de Bijar, et donc c'était son bataillon qui avait fait cette arrestation majeure hein, pour l'armée française pendant la bataille d'Alger. Et il a discuté toute la nuit avec Ben Midi. Et à l'issue de la nuit, quand il a fallu renvoyer Ben Midi, probablement se faire assassiner par l'armée française parce que c'était un opposant, il a fait présenter les armes dans la cour par ses hommes à Ben Midi, et je trouve que c'est ça la droite quoi. Vous voyez, c'est quand même un panache exceptionnel. Et donc tout ça pour dire, je suis à la messe d'enterrement de mon grand-père avec Édouard Philippe devant moi, et pendant toute la messe j'ai pas arrêté de me dire, mais comment lui, le jupéiste, l'homme des 80 km/h.
Alors, il veut pas que vous l'appeliez le jupéiste.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et c'est intéressant d'ailleurs chez lui, parce qu'il dit, sauf à m'humilier, plus personne ne me traite de jupéiste. Donc, c'est quand même, on sent bien que parfois, cette droite-là ou ce centre-droit-là.
Une autre émancipation.
Hein, aimerait bien. Oui, une autre émancipation, mais aussi parce qu'il sent que le jupéisme, ça veut dire la mollesse, ça veut dire la non-droite, entre guillemets. Bref, et donc Édouard Philippe assiste à cette messe très tradie, très mytho, comme on dirait, ponctuée d'une prière du para à la fin de la messe. C'est quand même un très beau chant, je ne sais pas si vos auditeurs le connaissent, j'imagine la plupart oui, mais voilà, c'est magnifique, et il y avait 400 personnes en train de le chanter de manière virile et en même temps frissonnante. Et je me suis toujours demandé, donc pendant la messe, comment il avait vécu ça, comment un homme qui n'est pas de ma droite peut appréhender cette mythologie-là. Et j'ai pas eu l'occasion de lui demander juste après. Et puis un an après, on se retrouve au Havre, où j'accompagne Bruno Retailleau, à l'époque ministre de l'Intérieur. Et donc on est chez Édouard Philippe, donc il nous accueille. Puis à un moment, on a un petit moment un peu plus privé, Édouard et moi. Et je lui dis, mais alors, au fait, il y a un truc que je vous ai jamais demandé, mais quand même cette messe-là de mon grand-père aux Invalides, avec que des miloufs, avec mon frère prêtre, avec 12 enfants de cœur, avec de l'encens, avec du latin, avec ce sermon quand même bien ancré, on va dire. Et comment vous l'avez vécu? Il me dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Combien de fois je vous ai expliqué que pour moi, la messe, c'était pas la guitare électrique, que ça doit être très solennel ou avec une liturgie riche. Et là, je parle de quelqu'un, Édouard Philippe, qui va pas à la messe, hein, qui est même pas croyant. Et la prière du para, c'est magnifique, etc. Et donc je me dis, puisque les livres servent aussi parfois à faire la paix, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'on avait un ethos commun, que nous sommes nombreux à avoir un ethos commun, que quand François Bayrou me permet de de relire Bernanos, qui écrit dans La France contre les robots en 1947. Parce que donc pour le livre, je suis aussi allé voir François Bayrou à Pau, et je vous cache pas qu'on n'a pas parlé centrisme, on a parlé...
Oui, vous dites dans le livre, les références sont
exactement,
sont partagées,
on a parlé Péguy, on a parlé Henri IV, on a parlé Bainville, on a parlé identité et culture. Et donc il y a cette phrase de Bernanos qui m'est rappelée par Bayrou sur la civilisation moderne. Donc en 1947, Bernanos écrit dans La France contre les robots, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre la vie intérieure. Moi je suis désolé, il n'y a pas une phrase qui est plus de droite pour moi que cette phrase-là. Et que ça soit vendu, cité par François Bayrou, qui a été Premier ministre de Macron, qui a appelé à voter Ségolène Royal, qui a appelé à voter François Hollande, à chaque fois pour essayer de faire battre Nicolas Sarkozy, une fois avec échec, une autre fois avec succès, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce qu'on a des paysages intérieurs communs et qu'est-ce que je peux tirer d'intéressant et de meilleur de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour eux, ça ne veut pas dire que je suis leur militant, leur partisan, ça veut dire que j'essaye de prendre chez chacun ce qui peut à la fin nous construire un univers mental commun et surtout porteur.
Cet univers mental commun, on pourrait espérer qu'il dépasse celui de la droite, que ce soit un univers commun sur des mémoires partagées nationales. Est-ce que vous voyez dans votre expérience une sorte de trop forte étanchéité du microcosme dont vous venez, qui ne serait pas capable de déceler ce qu'il y a encore de beau, de vivant, de traditionnel, dans d'autres microcosmes, de droite comme de gauche? Est-ce que vous lui voyez une forme de, à force d'être du dernier carré, on finit par se replier sur soi-même finalement?
C'est évidemment un danger qui nous guette. Je maintiens quand même, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la droite m'est toujours apparue... que ce soit des cousins, des hommes politiques, des curés, que vous voulez, moins sectaires que la gauche, mais le danger de l'entre-soi nous guette, évidemment. Et de même que le wokisme s'appuie sur la cancel culture, sur l'ostracisme, sur des herses culturelles artificiellement dressées, attention à ce que la droite ne reproduise pas la même chose. En tout cas, par exemple, à la valeur actuelle, j'essaie d'être très vigilant avec ça. S'il y a un film magnifique réalisé par un réalisateur qui pourtant a des engagements à gauche, mais que qui manie bien la caméra, que son scénario est bien écrit, que le jeu des acteurs est bien exécuté, rien ne nous empêche d'en dire du bien. Maintenant, honnêtement, que ce soit CNews, que ce soit nous, que ce soit plein de journaux de droite, on a beaucoup de mal à faire venir des hommes politiques de gauche chez nous, et on aimerait mettre plus en scène notre ouverture d'esprit, mais c'est compliqué.
Vous avez vu ce monde se métamorphoser, de monde reclus, enfin en tout cas perdant de l'histoire du mauvais côté du banc ou dans les bancs de l'opposition, même à la messe. Aujourd'hui, il a beaucoup plus voix au chapitre grâce à des évolutions importantes, notamment dans le monde médiatique, mais aussi dans le monde politique et culturel. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire ce qu'on entend parfois, c'est-à-dire « Ah, on a résisté des dizaines d'années, ça y est, notre combat a du sens », une sorte d'esprit de revanche, d'une certaine manière. Est-ce qu'au contraire, vous les voyez s'affronter à un monde qu'ils ne connaissent pas, dont les codes sont établis par d'autres? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rencontre entre l'échec et le succès aussi accéléré?
Écoutez, je dévoile un peu ma conclusion en disant ça, mais la question est quand même trop tentante pour utiliser ce que je dis à la fin de mon livre. J'explique, je prends la métaphore des Fata Morgana. Les Fata Morgana sont des mirages dits supérieurs, complexes, et qui font que ce qui arrive dans certains endroits assez particuliers du monde, que ça soit la baie des Chaleurs au Canada, que ça soit le détroit de Messine entre l'Italie et la Sicile, ou au Glénan, par exemple, qui font apparaître des mirages totalement spectaculaires dans le ciel. Donc vous voyez des cargos voler, vous voyez des maisons à l'envers. Et comme tous les mirages, les Fata Morgana résultent de la superposition d'une couche d'air froide avec une couche d'air chaude. Sauf que normalement, dans les mirages classiques, c'est la couche d'air chaude en dessous et la couche d'air froide au-dessus. Et là, c'est l'inverse qui se produit, et ce qui fait que le canal optique est pris au piège et donne lieu à ces images tout à fait spectaculaires. Et je crois fondamentalement que la droite en est là. C'est-à-dire que la couche d'air chaude, qu'est-ce que c'est? La couche d'air chaude, c'est les bonnes ventes de livres de Philippe de Villiers, c'est les audiences de CNews, c'est la résurgence de Radio Courtoisie qui, sur le digital aujourd'hui, existe assez fortement sur YouTube. Et je pense irradie, enfin je viens d'une famille qui écoutait Radio Courtoisie du soir au matin, voilà, donc les Serge de Beketch et consorts ont ponctué mes petits déjeuners d'enfants pendant des années, mais je voyais bien que c'était beaucoup plus circonscrit à notre époque qu'aujourd'hui. Il y a l'allant général, en gros, de la droite dans le débat public, la capacité de gens comme Charlotte Dornelas, Jenny Bastier, Geoffroy Lejeune, etc., à pouvoir avoir des bonnes expositions et des belles expositions. Donc, tout ça nous donne l'impression et un peu l'envie de fanfaronner, ou la tentation, en tout cas, de fanfaronner. Et bon, moi, ce que j'essaye d'expliquer, parce que j'ai été éduqué comme ça aussi, dans la prudence, et j'essaye d'expliquer que toute cette couche d'air chaude, elle vient quand même se superposer par une couche d'air froide qu'il ne faut pas oublier. Il ne se passe absolument rien de droite dans ce pays, cher Charles. La réalité de la fiscalité des entreprises, la réalité de la taxation du patrimoine des individus, la réalité des flux migratoires, la réalité de la composition de la magistrature française, la réalité de l'attribution des prix littéraires, la réalité de l'insécurité, la réalité de l'entrisme islamiste, etc. C'est des choses que nous combattons tous, chacun à notre niveau et à notre place, et sur lesquelles, pour le moment, il faut reconnaître que nous avons des succès assez mitigés.
Au moins très largement relativisables.
Voilà, exactement. Donc, certains sont tentés de crier à la victoire, soit par imprudence, parce qu'ils sont de notre camp, soit par hostilité, parce que justement la gauche adore dire, regardez, la droite est en train de gagner la bataille culturelle, donc faut tout de suite sortir les airs. Quelle bataille culturelle? Qui est de droite à la présidence de France Télévisions? Qui est de droite au Conseil constitutionnel? Qui est de droite dans les grands jurys des prix cinématographiques au Festival de Cannes? Donc non, pas du tout, faut pas compter s'en arrêter là. Et d'ailleurs, je cite une phrase de Vincent Bolloré, qui est un des personnages de mon livre, et qui avec qui je relate une discussion qu'on avait eue ensemble, et qui m'avait dit, à l'issue de cette discussion, on va finir par gagner. Et je m'étais beaucoup interrogé sur l'emploi du futur proche, parce que l'imprudence et l'erreur, ça serait d'utiliser le passé composé et de dire on a gagné. Non, on n'a pas du tout gagné. On va peut-être gagner, on va peut-être finir par gagner, mais justement, restons concentrés, vigilants, et continuons surtout à donner envie. Je pense que beaucoup de gens ont œuvré ces dernières années pour le diagnostic, pour alerter sur la décadence française. Moi, j'ai trouvé ça assez saisissant, le suicide français. Je suis plus réservé sur la carrière politique d'Éric Zemmour, mais en tout cas, l'introduction du suicide français est une pièce magistrale du combat culturel de la droite de ces 50 dernières années. Vraiment, c'est magnifiquement démonstratif. Et maintenant, je pense qu'est aussi venu le temps de reséduire, entre guillemets, de redonner envie. Moi, je crois à une droite, évidemment, ferme sur ses appuis, je crois, de pas trop me cacher derrière mon petit doigt en étant directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Pas adjoint.
Oui, voilà, j'ai eu cette petite promotion il y a quelques années maintenant, mais je pense vraiment que la droite doit savoir convaincre, doit savoir donner envie, doit savoir se mettre en scène, doit savoir rendre son esthétisme. C'est horrible de dire ça sur Radio Courtoisie, parce que je sais qu'il n'y a pas le droit d'utiliser de mon anglais et surtout des mots faciles, mais elle doit être quelque part sexy, la droite. Et j'espère que vos éditeurs m'en pardonneront.
Ce sera la droite à Corte.
Voilà, c'est plus joliment dit. Et donc, c'est ça ce moment qu'on vit, c'est-à-dire, effectivement, il y a une dynamique, mais il faut l'amplifier, il faut la sublimer, et c'est ce que j'ai essayé vraiment de faire avec ce livre.
Donc vous pensez que vous allez pouvoir vous consoler du sionisme à un moment ou un autre ?
Je suis inconsolable, cher Charles, de l'arrêt de la vie politique de François Fillon. Mais plus sérieusement, déjà j'ai beaucoup de chance parce que...
Oui, parce que vous n'avez pas simplement eu un sujet d'étude, vous avez eu un ami.
Voilà, exactement. Ce que je dis dans le livre, en devenant ami avec mon idole, j'ai réalisé une forme de rêve, même s'il a fallu pour cela que je cesse d'être un fan. Donc j'ai encore beaucoup d'admiration pour lui, mais je suis pas vraiment dans une position de fan, et j'ai la chance surtout de pouvoir avoir énormément de discussions avec lui, avant d'aller à BFM, commenter l'actualité, quand je réfléchis à un dossier de couverture ou tout simplement quand j'ai envie de partager une lecture, et de pouvoir avoir des discussions avec quelqu'un qui est vraiment un grand regard en surplomb, qui a en plus une prescience géostratégique, qui connaît très bien les Émirats, qui connaît très bien la politique étrangère des États-Unis, etc. Donc toutes choses qui sont assez utiles en ce moment pour comprendre la marche du monde. Mais effectivement, je suis orphelin politique, je le reconnais. Et en même temps, je suis pas militant politique de toute façon. Donc moi, mon job, mon travail s'arrête là. C'est-à-dire que mon travail, c'était d'essayer de rendre à la droite sa justice, sa gloire, son honneur, de raconter des personnages à la qualité inégalée, de les mettre en scène avec authenticité, mais pour rétablir aussi leur vérité et la réalité de ce qu'ils sont. Mais malheureusement, je peux pas énormément aider pour la traduction politique de tout ça. Ce que j'aime bien dire, c'est que l'Union des droites, qui est un projet politique, je sais même pas si c'est quelque chose qui pourrait marcher, je sais même pas si c'est souhaitable, parce que moi je crois plutôt à la politique de l'offre, donc c'est-à-dire un candidat, une candidate qui arrive avec un projet tellement fort qu'il rallie tout le monde derrière son panache blanc. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a une union des droites charnelle dans ce pays. Tellement de gens qui partagent cet ethos, qui font parfois semblant de pas le partager. Et donc c'est pour ça que moi je fais exprès de mettre autant Édouard Philippe que Jean-Marie Le Pen, autant Thierry Ardisson que Jean-Pax Méfré, autant Jean Sévilla que des gens plus mainstream que peuvent être, entre guillemets, par exemple, François Fillon ou Monde Éditrice.
On voit des figures intellectuelles,
à qui je consacre. Exactement, François Sureau, c'est un très bon exemple, l'académicien, qui est aussi dans le livre. Parce que il est temps de faire la paix, et je sais très bien qu'il y a des revanches à prendre, mais à mon avis, elles seront d'autant plus éclatantes si elles se font dans le beau et dans la joie.
Ultime question, il me reste à rappeler le titre de votre ouvrage, La cendre et le feu, aux éditions Robert Laffont. Est-ce que chez vos jeunes collaborateurs de Valeurs Actuelles, vous voyez encore cette droite-là, droite héritière de ce microcosme, ou c'est quelque chose qui a muté ?
Non mais complètement, je vais vous donner une seule anecdote. On fait régulièrement des pots à Valeurs Actuelles, et ceux qui connaissent par cœur les chansons de Jean-Pax Méfré ou certaines chansons de parachutistes, c'est des gens qui ont 22 ans. Donc ça, je trouve ça absolument formidable. Raymond Soubi, qui est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, donne un conseil en général à ses collaborateurs quand il les recrute, c'est essayer de toujours rester au contact des jeunes et de travailler avec des jeunes collaborateurs. Et honnêtement, à Valeurs Actuelles, contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait penser, la moyenne d'âge est très basse, et j'ai là affaire à des gens cultivés, joyeux, avec les mêmes références effectivement qui auraient pu être les nôtres, et qui sont tout à fait enthousiasmants.
La cendre et le feu, c'est chez Robert Laffont de Tuc du Haldenis. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à Benoît, à la technique, et à la semaine prochaine.
Vous venez d'entendre le libre journal des débats dirigé par Charles de Meyer, émission préenregistrée le 4 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 17 juin, de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.